Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1179 en ce samedi 28 janvier 2023. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues dans ce 1170e numéro de Sweet Home Chicago. Deux univers parallèles, différents mais complémentaires et quelque part tellement similaires. En première heure, ce sont deux nouvelles plages de Keep On, l'album de Lil Red and the Rooster qui s'offriront à vos oreilles, mais aussi une belle interview de Laurent Galichon dans le cadre de la série My Rockers, où il évoque bien sûr son groupe Red Beans and Pepper Sauce, mais aussi quelques-unes de ses influences, Led Zeppelin, The Beatles, Red Hot Chili Peppers, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, mais surtout Jimi Hendrix qui sera au centre de la rubrique avec un magnifique Voodoo Child, extrait du mythique Electric Ladyland, enregistré en 1968. Je vous donnerai tout à l'heure le programme de la deuxième heure, mais en tout cas, il y aura une belle interview encore de Luke Winslooking et de Roberto Luthi. Mais en attendant, on commence tout de suite avec le disque du mois. C'est bien sûr Lil Red and the Rooster. Ça s'appelle Love the Hell Right Out of You.
Father Joe caught my eye, said I love the hell right out of you, with a twinkle in his eye. Hell's not in your whiskey, I'll you swear not, how you shake your thing, he'll make you not care. Gonna love the hell right out of you, that's what I'm gonna do. So I sat right down with my nitro brew, and I gave Father Joe my ear. Well, after about a minute or two, I felt that old devil tremble with fear. Cause the devil lies, the devil boasts, doesn't care if you starve while he carves his ropes. Gonna love the hell right out of you, that's what I'm gonna do. Now that old devil knew Father Joe's gonna do. So he huffed, he puffed, he cried, and Father Joe just brushed him aside. That old devil will manipulate, so you kick him in the butt before it's too late. Gonna love the hell right out of ya, that's what I'm gonna do. Joe, you know, he said, yes, I do. Now's the time for you to go and bless this whole world through. Cause that old devil's quick, he gets his way, wrings greedy little hands while he takes your choice away. Gonna love the hell right out of you, that's what I'm gonna do. We're gonna love the hell right out of the world, that's what we're gonna do. We're gonna love the hell right out of the world, that's what we're gonna do. We're gonna love, love, love and love. We're gonna love the hell right out of the world, that's what we're gonna do. Gonna love the hell right out of the world, that's what we're gonna, yes, we're gonna, well, that's what we're gonna do.
Extrait de l'album Keep On chez Blue Heart Records, Love the Hell Right Out of You par Lil Red and the Rooster. Je salue encore une fois ici Jennifer Milligan et Pascal Fouquet, ainsi que toute la bande, bien sûr, de Lil Red and the Rooster. Disque du mois pour janvier pour Sweet Home Chicago. Et maintenant, une grande promenade avec Laurent Galichon, guitariste de Red Beans and Pepper Sauce, qui nous parle de Jimi Hendrix, mais pas que. Et puis, on se retrouvera en fin d'émission. Mais entre deux, on aura écouté plein de choses, dont Red Beans and Pepper Sauce. Merci à toi, Laurent. Laurent Galichon, bonjour.
Salut.
Ça va bien? Depuis la dernière fois, on s'était vu l'été dernier, Laurent, pour Red Beans and Pepper Sauce. On s'était vu au Mojo Effect. Tu te souviens de ce festival en juillet 2022?
Oui, tout à fait. Je me rappelle ce festoche dans les bois, comme ça, avec les fées, des trucs bizarres.
Le bois des fées, est-ce que tu as subi l'effet du bois des fées? Dis-moi, est-ce que tu en es revenu transformé d'une manière ou d'une autre?
Ouais, je sais pas, je crois que ouais, je crois qu'il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose là-bas, et il s'est peut-être passé pas mal de choses aussi en actu pour ton groupe Red Beans and Pepper Sauce. Il y a eu l'album Seven, hein, ça a été la pierre angulaire de votre actualité, et puis j'allais dire surtout derrière ça, les conditions d'enregistrement, et puis le lieu, est-ce que tu peux nous en parler? Il y a eu une petite histoire, un petit conte de fées qui vous est arrivé, non?
Oui, on a demandé le soutien des fans pour réaliser un truc un peu spécial. Pour cette fois-ci, on voulait essayer d'aller dans un studio un peu particulier, et puis les fans nous ont aidés financièrement à monter le projet pour aller au Rockfield Studio au Pays de Galles, où on a pu enregistrer quelques titres, dont une cover de Led Zepp. Et voilà, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est un studio complètement mythique, puisque Queen a enregistré le Bohemian Rhapsody là-bas. Oasis a enregistré Wonderwall et tout l'album qui va avec. Il y a eu aussi Black Sabbath, Robert Plant, etc. Et donc, c'était pour nous l'occasion d'aller dans les pas des géants qu'on aime, dans un studio mythique, avec du vieux matos aussi, de profiter de ça. De profiter du son vintage, truc qu'on peut pas avoir forcément sous la main tous les quatre matins.
Ah oui, j'imagine. Ça rejoint un petit peu la question que je posais il y a quelques mois à Gaël Buswell, qui avait enregistré au studio Abbey Road à Londres. C'est un petit peu dans la même veine. On est dans des lieux mythiques, des lieux qui ont vu résonner, qui ont entendu surtout des musiques, des groupes, par exemple, que tu as cités. Qu'est-ce que ça fait de pénétrer dans ce lieu et puis d'y faire de la musique à son tour?
Ah, tu sens qu'il y a des ondes, il y a quelque chose. Bon, après, chacun le perçoit différemment, mais tu sens surtout que t'es dans un endroit où on est habitué depuis longtemps à faire de la musique. Les choses vont vite, c'est simple, tu es bien. Voilà. Tu es vraiment bien. Et puis en plus, le fait que ce soit au Pays de Galles comme ça, un petit peu, c'est pas à côté de la maison, quoi. Puis c'est dans la campagne, tu es obligé de t'isoler, tu es concentré sur ce que tu es en train de faire. Tu profites du moment, parce qu'effectivement, comme je le disais, il y a du matos assez incroyable, surtout comme nous, les amateurs de son vintage. Et voilà, tu profites du moment, tu es un petit peu isolé, tu es dans ta bulle, et je trouve ça vachement bien, surtout à notre époque où on a tous en permanence, même quand j'enregistre chez moi ou chez Nico à Montpellier, on a les téléphones portables, on a les ordinateurs. Il y a toujours un coup de fil qui peut arriver, qui peut te sortir du truc. Là, non. On était isolés. On était là, dans cette espèce de campagne. Il y a toujours le créateur qui rôde dans les coins. T'es à la retraite maintenant, mais tu le vois passer. Il te raconte une histoire, une anecdote ou deux. C'est vraiment fun.
Ah oui, et ça permet donc véritablement une immersion. Et ça a été le cas par rapport au répertoire, tout nouveau répertoire de cet album, qui est sorti en septembre, je crois, Laurent, hein, c'est ça?
Exactement.
Est-ce que l'album a une bonne réception, des bonnes critiques? Est-ce que les ventes fonctionnent? En clair, est-ce que c'est une réussite, ce numéro 7 de Red Beans and Pepper Sauce?
Oui, ça continue. Bah, comme à chaque album qu'on a sorti, chaque fois, c'est une petite progression.
Ouais.
Y a la réception par la presse est fantastique, en tout cas pour nous. C'est dingue, on a eu des papiers dans Rolling Stone, dans Air Force, dans tout un tas de bouquins, beaucoup de radios, on fait des interviews, enfin, ça a vraiment fait parler. On a fait une très très belle campagne de promo qui est pas tout à fait terminée, et du coup derrière ça a amené une petite tournée qui a commencé il y a quelques mois, où on a commencé à faire Montpellier, on est allé sur Bordeaux, on a fait une date à Paris où on a eu la chance de pouvoir inviter notre poteau Manu Lanvin avec nous.
Ah super.
Pareil, il y a eu des live reports derrière, il y a eu un concert fantastique au Rumfest, un festival hard rock dans le Nord, et puis là il y a des nouvelles dates qui vont arriver qu'on n'a pas annoncé encore, mais on va aller faire un petit tour en Allemagne, en Belgique. Et oui, il est vachement bien reçu, l'album. Il est vachement bien reçu par la presse et puis par le public. On stand de merch après les concerts, on se fait un petit peu dévalider.
Ah ben c'est super. Alors ça veut dire effectivement c'est vraiment le témoin, hein. C'est-à-dire que les gens qui viennent de vous voir sur scène, s'ils veulent repartir avec le Scud, c'est vraiment que c'est dans la poche, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un festival en particulier, Laurent, que vous n'auriez pas encore fait depuis le temps que le groupe existe et que tu rêves de faire, une scène sur laquelle tu rêves de monter?
J'avoue que même si c'était sur la petite scène sur le côté, ne serait-ce que pour partager le moment, pour voir cette espèce de mastodonte dont tout le monde parle, j'avoue que j'aimerais bien aller au Hellfest. J'aimerais bien y aller comme en tant que public, tu vois. J'imagine bien qu'on jouerait pas si on y jouait sur la main stage, mais je sais qu'il y a une petite scène pour les groupes émergents.
Ouais.
Et c'est vraiment pour voir cette espèce de Barnum d'un point de vue, c'est historique, moi je trouve, comme festival, ce truc, c'est dingue. Et puis, le fait d'y accéder en étant sur scène, c'est aussi de voir les backstage, ce truc de dingue. J'aime bien voir ça un peu l'arrière. l'arrière du décor, tu vois. Et ouais, s'il y en avait un, vraiment un, mais je pense que plus ou moins tout le monde rêve d'aller jouer dans cette espèce de...
Ah oui, alors tout le monde peut rêver d'y aller, mais enfin, en tout cas, il y a assez peu de groupes, à mon sens, et quand même, vous en faites partie, vous, qui le mériteraient. Il y a quelques Français, quand même, qui ont ce privilège. Tiens, je pense à Laura Cox, tout d'un coup, là. Il me semble qu'elle soit elle y est allée, soit elle va y aller, non?
Elle y est allée, je pense. Je sais plus exactement il y a quelle édition, si c'était la dernière ou celle d'avant.
Ouais.
Si, mais c'était la dernière, celle où ils ont fait beaucoup, ils ont fait deux week-ends, je crois.
2022,
voilà. Oui, effectivement, mais il y a beaucoup de monde. Donc, il faut avoir une certaine notoriété pour mériter d'aller sur un main stage, pour pas que les gens se barrent. Évidemment, elle a dû jouer, j'imagine, le matin quand tu mets un petit peu quelques groupes émergents. Enfin, les groupes émergents du Hellfest, c'est déjà des gros trucs. Hein.
Mais oui.
Je sais qu'il y a d'autres groupes qui sont allés comme Dacha Mandala. Alors, c'était pas sur la main stage, mais c'était sur. Je sais qu'il y a une autre scène, j'ai pas le nom, les connaisseurs sauront. Il y a une petite scène où les groupes émergents se succèdent à vitesse assez rapide, quoi. Je crois que c'est 30 minutes, 40 minutes, et tu passes là et tu fais le plus de bruit possible. Ouais.
Après la sortie de cet album Seven, de Red Beads and Pepper Sauce, qu'est-ce qu'il faut souhaiter avant de t'interroger sur l'artiste dont on va parler tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut souhaiter au groupe pour l'année 2023, Laurent?
Le plus de dates possibles, des festivals pour une fois de plus traverser la France de long en large en travers.
Voilà.
Pour aller jouer à peu près dans toutes les régions, puis un petit peu l'étranger aussi, puisque le disque va sortir en début d'année, là, c'est dans les semaines qui viennent, il va sortir en Belgique et aux Pays-Bas. Donc pareil, là-bas, on va essayer de développer notre musique dans ces deux pays, puis l'Allemagne aussi.
Et l'Allemagne, et peut-être la Scandinavie, parce que ce sont des endroits où on adore ce style de musique qui est situé entre le blues rock et le hard rock. Enfin, vraiment, tout ce qui vous inspire, tout ce que vous faites depuis vos débuts, enfin moi je vous suis depuis le premier album, et ce sont des pays qui sont très très fans de toutes ces musiques-là.
Oui, tout à fait. Les premiers passages qu'on a pu faire en Allemagne et aux Pays-Bas, ça s'est toujours très, très bien passé avec le public, effectivement, qui est très réceptif à ça.
Thank you.
va parler, Laurent, si tu veux bien, maintenant, d'un artiste qui t'intéresse beaucoup, et ça depuis très très longtemps. Mais quand je t'ai demandé de choisir, il y avait une petite hésitation. Alors, ce que je te propose, c'est de parler de l'autre groupe, celui finalement qui n'a pas été retenu, mais j'ai l'impression qu'il est tout aussi important que le premier, non?
Ouais, on en parlait au niveau des influences générales. Effectivement, Led Zeppelin, c'est un truc de dingue pour moi. Quand je suis tombé sur l'album Led Zepp 2, un vinyle, qui était l'année vinyle de mes parents, ça a été un choc de suite dès le premier morceau, dès What a Lotta Love, dès l'intro de guitare, et puis tous les morceaux qu'il compose aussi. Mais c'est sûrement mon groupe préféré, parce que j'ai écouté les albums un nombre de fois incalculable. Mais la question, c'était vraiment, qu'est-ce qui t'a amené au blues?
C'est ça.
Alors, ça s'est pas joué sur un coup de dé d'un coup. Il y a eu, et Led Zepp il y a contribué. Bon, voilà, tout à l'heure, on sait qu'ils l'ont plus ou moins piqué à Willie Dixon, mais quand t'écoutes le morceau, ça donne pas immédiatement envie d'aller écouter du blues. Pareil, sur cet album de Led Zepp 2, il y a The Lemon Song, qui est une sorte de reprise de Killing Floor,
ouais,
que Jimmy Page a trituré le riff et tout, mais bon. Parler des Beatles, ma mère aimait les vinyles, et quand j'étais petit, il n'y avait pas les radios libres, donc elle a toujours aimé qu'il y ait de la musique tout le temps à la maison. Donc je me rappelle que le disque, le White Album des Beatles tournait en boucle, et dessus tu as Your Blues et Why Don't We Do It in the Road, un truc comme ça, qui sont deux blues de Lennon qui sont fantastiques. Why don't we do it in the road?
Mais là, tu nous parles de disques qui étaient sortis déjà depuis longtemps, parce que tes jeunes années, c'est quoi? C'est les années 80, non?
Ben, moi, je suis né en 75, effectivement.
Oui, voilà.
Mais bon, là, je te parle, l'album Blanc, ma mère écoutait ça en boucle, mais moi, j'ai 4-5 ans. Je m'en suis rendu compte des années après en l'écoutant, et j'ai dit, mais je connais cet album par cœur. Et c'est ma mère qui m'a dit, mais je l'écoutais quand tu étais petit, elle me dit, t'aimais bien. Voilà. Bon. Et donc, c'est tout un cheminement, en fait, qu'il a toujours été plus ou moins là, le blues, parce que ma mère écoutait beaucoup de groupes anglais, comme les Beatles, les Stones ou les Zeppelin. Puis mon père, lui, était fan de plutôt de la Stax, tu vois, de Otis. On n'est pas loin quand même, tu vois.
Mais oui, c'est la même famille.
Et chez Led Zepp aussi, comme morceau cultissime, il y a le Since I've Been Loving You, qui est un blues magique, mais qui est encore une fois un blues. C'est Led Zepp, sa façon de jouer du blues, très heavy, et puis avec des accords un peu plus complexes que dans le blues traditionnel, qui l'amène presque un peu vers la pop. C'est pas vraiment le déclencheur. Le déclencheur, c'est Jimi Hendrix.
Alors, justement, avant d'attaquer Jimi Hendrix, une dernière question par rapport à Led Zepp. Quel est le membre de Led Zeppelin qui t'a le plus impressionné? Est-ce que c'était le batteur John Bonham, que certains qualifient de dieu? Est-ce que c'est le bassiste claviériste John Paul Jones? Est-ce que c'est l'immense vocaliste qui est Robert Plant? Est-ce que c'est le guitariste extraterrestre? Je sais pas, quel est celui
C'est impossible de choisir. J'ai réfléchi à cette question plusieurs fois. C'est impossible. C'est pour ça que c'est mon groupe préféré. C'est parce que les quatre, pour moi, ils sont au même niveau.
Toi, en tant que guitariste, Jimmy Page, ça a dû t'influencer quand même quelque part un peu, non?
Mais carrément, pour tout, pour le son, pour le parce que c'est un immense guitariste, mais c'est aussi un immense producteur. Le son de Led Zeppelin, il l'a complètement inventé. C'est lui qui est à la base de tout ça. C'est lui le créateur du son du groupe. C'est lui qui réfléchissait où on allait poser les micros dans la pièce pour la batterie. Enfin, je veux dire, c'est un vrai producteur. Il m'a inspiré pour toutes ces choses-là. En particulier, le fait de jouer la guitare, mais aussi de faire tout ce qu'il y a autour. Là où chez Hendrix, c'est vraiment, voilà, la guitare, c'est Jimi Hendrix. J'aime beaucoup les gens qui ont joué avec lui, mais en fait, il aurait joué tout seul que c'était pareil.
Alors, en 1969, le premier album de Led Zepp est sorti, mais là, cette année-là, il y avait déjà plusieurs années de carrière pour Jimi Hendrix. Il a commencé à faire parler de lui en tant que sideman, mais il n'était pas très très connu. Et surtout, c'est cet album The Jimi Hendrix Experience en 1967 qu'il a fait sortir du lot. Il y a eu le rôle de certains membres des Animals qui l'ont fait connaître en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe. Et puis ensuite, il y a eu cet album absolument mythique, absolument culte, qui s'appelle Electric Ladyland. On en parlait hors antenne l'autre jour. Et il a été également choisi par l'ami Jérém Le Coufflet dans l'émission My Rockers numéro 13. Le même album, pas le même morceau, on va voir. Mais ce disque-là, comment est-ce que tu le qualifierais avec tout le recul maintenant, toutes ces années après son enregistrement, 1968 ?
De Electric Ladyland, ouais. Je pense que c'est mon album préféré, donc ça c'est très personnel, mais pour le qualifier, c'est un tournant cet album, parce que les deux premiers albums de Jimmy sont faits avec beaucoup de morceaux assez courts, un peu comme si le fait de pas avoir son studio ou le fait de louer des studios horriblement chers à l'époque bridait un petit peu sa créativité, quand on voit que sur scène les morceaux pouvaient s'étendre énormément, oui. Alors qu'un studio, s'il faisait toujours des petites pièces de 3 minutes, bon, il y avait aussi le concept qu'il fallait passer à la radio, donc derrière il y a toujours des producteurs qui sont là pour rappeler ça aux artistes, mais avec Electric Ladyland, on sent que d'un coup, c'est son Sergeant Pepper à lui. On sent qu'il a plus de limites, s'il a envie de passer des heures en studio et faire des pièces, des sortes de petits chefs-d'œuvre comme ça qui durent, il peut. On sent qu'il peut, il est plus bridé par rien. C'est dommage, j'aurais bien aimé entendre la suite.
Oui, parce que, effectivement, il y a eu ensuite deux albums et il nous a quittés, on le sait, en septembre 70. Mais on pense aussi que Electric Ladyland aurait pu ne pas s'en tenir à un simple double album. Ça aurait pu être un coffret absolument gigantesque parce qu'il y avait plein de choses en plus de tout ce qu'il nous a livré finalement.
Ouais, je pense qu'on avait affaire à quelqu'un d'extrêmement prolifique. On a pu l'être Prince après par la suite. On sait que Prince, il y a des bandes qui traînent, il y a de quoi en faire des albums parce qu'il a enregistré énormément. Et Hendrix, c'était ça c'était ce qui devait arriver puisqu'il avait racheté les studios Electric Lady. Enfin, ils avaient racheté ça pour lui où il devait pouvoir rester enfermé en studio tout le temps qu'il voulait, comme la période la plus prolifique chez les Beatles où ils étaient enfermés de longue en studio avec George Martin sans compter les heures. Ils y passaient tout le temps qu'ils voulaient. C'était ça qui était censé être la suite de la carrière de Jimi Hendrix. Malheureusement, on n'aura pas vu ça.
Non, on n'aura pas vu ça. Et puis, il y a un certain Yazid Manou qui passe pour, on va dire, le spécialiste de Jimi Hendrix en France, qui subodore aussi que s'il avait pu concrétiser son projet avec Miles Davis, ça aurait donné quelque chose d'absolument jamais vu, jamais entendu, incontournable, quoi. Et là, on est dans le rêve, on est dans le fantasme des musiciens, hein, finalement.
Je connais cette anecdote, c'est assez légendaire. On sait qu'ils se sont rencontrés, on sait qu'ils ont passé une paire d'heures ensemble dans une pièce et qu'il n'y a que le type qui était là qui a entendu ce qui s'est passé et qui est là pour le raconter. Alors après, est-ce qu'il invente, est-ce qu'il en rajoute?
Rien. Tu connais.
Ça aurait pu donner quelque chose, ça aurait pu faire un flop aussi, on ne sait pas.
Toi qui habites à seulement quelques encablures de Marseille, hein, le serpent de Pétugue de Marcel Pagnol, il n'est pas si loin que ça des fois.
Exactement.
On a tendance à embellir un petit peu les choses du passé. Alors, moi, je voulais qu'on en vienne aussi à une question par rapport à toi, Laurent Galichon, guitariste de Red Beans and Pepper Sauce, par rapport à Jimi Hendrix, guitariste. Techniquement parlant, tout d'abord, qu'est-ce qui t'attire chez un garçon comme Jimi Hendrix?
J'ai bien étudié Lucas, puisque j'ai monté il y a quelques années maintenant, plus de 15 ans, on avait monté avec des potes un tribute à Jimi Hendrix, avec mon grand copain Olivier Mas, qui maintenant a une jolie formule où il joue tout seul en one-man band.
C'est vrai.
Et donc, il a fallu que je m'y colle, que j'apprenne tous les morceaux, les rythmiques et tout, et c'est là que tu te rends compte de l'étendue du vocabulaire du garçon, que ça a donné comme influence par la suite. Hein. Il y a les guitaristes des Red Hot Chili Peppers qui fait des morceaux comme Under the Bridge avec une intro qui vient tout droit de chez Jimi Hendrix. Thank you.
like I don't have a partner.
C'est que Prince aussi avait tendance à aller piquer des plats, à s'inspirer fortement de Jimi Hendrix. Le vocabulaire est monstrueux et la filiation avec le blues est vraiment très, très, très importante, beaucoup plus que chez d'autres. On parlait de Jimmy Page tout à l'heure.
Ouais.
C'est quelqu'un qui a été influencé par le blues, mais aussi par le rock'n'roll des années 50, par Scotty Moore. Alors que vraiment, chez Hendrix, je trouve qu'on est vraiment le plus proche du blues. Ben d'ailleurs, quand il joue Red House sur scène, il y a des phrases. On reconnaît Hendrix, mais on reconnaît aussi tous les gars qu'il y a derrière. On reconnaît essentiellement, enfin, beaucoup. Moi, je reconnais beaucoup Albert King. J'entends beaucoup ça dans le travail sur les bends, sur les notes. Sorte de prolongement du blues, mais pour l'amener à une espèce de niveau supérieur qui
oui.
se mélange avec tout et qui influence un peu tout le monde d'après derrière.
C'est ça, une espèce de paroxysme. Et d'ailleurs, Hendrix a continué lui-même d'influencer, même bien après sa disparition, des géants, des grands, même quelqu'un qui a été responsable carrément du blues boom des années 80, je pense à Stevie Ray Vaughan, qui, sans le répertoire d'Hendrix, aurait fait des choses foncièrement différentes, à mon avis. Et puisque tu parles d'Albert King, on pense aussi à ce fameux live de 83 où Stevie Ray Vaughan et Albert King ont enregistré ensemble, voilà, le maître et l'élève. Enfin, au bout d'un moment, qui est le maître, qui est l'élève, on ne sait pas, parce que j'ai quand même l'impression qu'un garçon comme Stevie Ray Vaughan, il a aussi un petit peu prolongé quelque part le style Hendrix.
Bien sûr, mais tous. Hendrix s'est inspiré aussi avant lui. Il y a eu Buddy Guy avant lui qui amenait ce truc de vraiment faire crier
ouais.
la guitare tout aussi fort que ce qu'il était capable de crier avec sa voix incroyable.
Ouais.
Donc Hendrix était le prolongement de ça et de plein d'autres. Oui, c'est une longue histoire. Le blues, ça s'arrête pas. C'est les. Tu le retrouves encore aujourd'hui. Je sais pas si on écoute Eric Gales. Il y a des choses de Jimi Hendrix. Alors évidemment, il s'est passé beaucoup de temps depuis. Donc il y a plein de guitaristes qui ont influencé les nouveaux bluesmen d'aujourd'hui. Mais si
ouais.
on écoute John Mayer.
Gary Clark Jr. aussi, ouais, par exemple.
Gary Clark Jr. Mmh. C'est, bon, l'héritage se transmet de génération en génération.
Et Laurent Galichon, un petit peu, quelque part, parfois.
Je fais au mieux.
Alors, on en revient une dernière fois à cet album Electric Ladyland, un album dont on ne sait pas trop par quel bout le prendre, parce que tellement il est tentaculaire, tellement il est génial. Enfin, il y a un titre qui avait été choisi, encore une fois, par l'ami Jérém Le Couflet il y a quelques semaines, c'était 1983, A Merman I Should Turn To Be. Tu sais, qui clôture quasiment l'album, un truc un peu long et très, très psychédélique. Toi, tu as choisi un morceau dans une version longue, bien sûr, hein, mais un truc qu'il a fait par ailleurs et qu'on retrouve sur plein de lives, c'est Voodoo Child.
Alors, Voodoo Child, oui, je l'ai choisi parce qu'on voulait parler du blues, c'était la question qui était posée. Bon, j'ai plein de morceaux d'Hendrix préférés, je pourrais pas en avoir un. Le Voodoo Child Slight Return, que tout le monde connaît avec son intro de Wawa, évidemment, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Mm-hmm. Toutes les phrases de solo sont à montrer dans les écoles sur ce morceau, tout, la façon dont ça groove, la façon dont le son de guitare est omniprésent. Et puis, il y a la version blues de ce morceau, qui s'appelle Voodoo Child, C-H-I-L-E-E, à la fin. Et c'est une version live, et Jimmy a eu la bonne idée, avant de jouer live en studio, de faire une espèce de jam, quoi. Il a eu la bonne idée d'inviter des gens dans le studio, on entend, ça parle quand au début du morceau, à la fin du morceau ça parle, on sait qu'il y a beaucoup de gens en cabine qui sont venus écouter et ça aussi c'est très important parce que faire de la musique improvisée dans le studio avec personne qui écoute, je trouve ça horriblement difficile.
Ouais.
Quand tu improvises, tu donnes au public, mais s'il n'y a pas de public à qui donner, t'as l'impression de balancer tout par la fenêtre, moi j'ai beaucoup de mal à faire comme ça, donc
déjà,
la bonne idée qu'il a eu c'est de faire venir du monde et puis il a aussi invité des potes d'Icos puisqu'on retrouve Steve Winwood à l'orgue.
Mm-hmm.
Et Jack Cassady à la basse, qui était le bassiste de Jefferson Airplane. D'ailleurs, Steve Winwood a rejoué ce morceau assez récemment, enfin il y a une dizaine d'années, en tournée avec Eric Clapton. Ils ont fait une tournée tous les deux. Un disque live qui porte le nom, qui était enregistré sur la tournée. Il y a un DVD ou un Blu-ray et ils font Voodoo Child puisque Steve Winwood était sur l'original et Clapton le joue magistralement bien. Mais voilà. Je me suis amusé plusieurs fois à écouter la version de Clapton, c'est fantastique, et puis de suite à mettre celle d'Hendrix derrière, pas pour faire un comparatif de c'est mieux, c'est pas mieux, mais c'est pour bien noter, sentir les différences entre l'un et l'autre, quoi. J'adore ce morceau. C'est monstrueux. Le son qu'à Jimi Hendrix sur ce morceau. Et puis la version est fantastique, tout le monde improvise. On entend presque les musiciens s'écouter tellement tout le monde est vraiment les oreilles grandes ouvertes et tout le monde s'écoute. Il y a des, ça, ce morceau monte de manière assez incroyable. Et les musiciens ne savent pas où ils partent. Quand ils partent, ils savent que c'est tout droit pendant des plombes jusqu'à ce que Jimmy fasse signe. Et il y a les deux accords qui permettent de conclure la grille. On ne sait pas trop quand ils arrivent. Et puis, et voilà, advienne que pourra. On sait qu'il y a deux versions qui existent de ce morceau. Il y en a une deuxième version qui est disponible dans l'album Blues, qui est sorti il y a quelques années, qui fait partie...
Oui, qui était sorti dans une compilation de 94, effectivement, avec cette fameuse pochette où il y a tout plein de couleurs à l'intérieur du visage de Hendrix. Un disque référence, effectivement, pour celui qui veut connaître vraiment le pan blues de Jimi Hendrix. Quand on t'entend parler avec passion de tout ça, on se demande, Laurent, pourquoi tu n'es pas né 30 ans avant.
Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est après, on est influencé aussi. Moi, c'est voilà, mes parents m'ont fait écouter. Il n'y avait pas les radios libres, il n'y avait pas TikTok pour me foutre de la musique de merde dans les oreilles comme à la génération de mon fils. Je suis obligé de mettre le son dans la voiture à fond pour qu'ils puissent écouter des trucs potables et pas les daubes qu'on leur met sur Internet. Moi, j'ai eu la chance, voilà, d'être élevé avec les vinyles de mes parents parce qu'il y avait. Alors, quand je dis c'est une chance, il n'y avait pas les radios libres. C'était bien les radios libres après parce que ça a permis. Mais bon, les grosses radios qu'on entend aujourd'hui sur les ondes qui sont les leaders.
Ah ben il y a Radio Libre et Radio Libre, c'est comme pour les chaînes de télé, voilà. C'est comme pour tout, hein. On peut trouver le meilleur et le pire sur Internet, on est d'accord,
voilà. Bien sûr. Exactement. Mmh. Mais bon voilà, grâce au vinyle de mes parents, j'ai écouté plein de choses, puis après moi je suis allé explorer, puis je suis un ado des années 90, donc des années 90, bon, je les ai pris en travers la tronche, hein. J'ai commencé à faire de la guitare, deux mois après sortait le premier album de Nirvana,
le premier
album de Rage Against the Machine, j'étais comme un fou, Slash, qui était le nouveau guitar héros à la mode, enfin...
Ouais.
J'ai eu de la chance, dans ma jeunesse aussi, c'était très rock la musique finalement.
Ah ouais, c'est marrant, moi je suis passé à côté de ce truc-là, je suis resté fixé sur effectivement ces années 60, 70 essentiellement, et puis bien sûr toute l'actualité du blues, mais ça fait un peu plus de 40 ans dans Sweet Home Chicago, les émissions précédentes, je m'y intéresse. Mais voilà, on peut pas tout écouter tout le temps, mais effectivement quand on parle de Jimi Hendrix, ça laisse pas indifférent, même s'il y a des gens, je le sais, qui le détestent, et puis ils savent pas expliquer pourquoi d'ailleurs, c'est juste parce que ça fait beaucoup de bruit, à mon avis, c'est la seule raison.
Ouais, bah, y a des gens qui sont... Je le sais, dans le milieu du blues, j'avais rencontré, il y a des gens qui, voilà, à partir du live de Regal de 65 de B.B. King, après, à partir de là, ça n'existe plus.
Ah, bah oui, oui,
tout ça. Tout le reste, c'est. Bon, c'est dans ça, chacun a ses goûts.
Oui,
et,
oui.
J'ai aucun souci avec ça. Moi, je suis assez open. J'attends juste le prochain, quoi, voir quel est le prochain truc qui va me faire grimper au rideau, quoi.
Et je crois que, de toute façon, voilà, et dans l'émission Sweet Home Chicago, on se rend compte également, il y a des nouveautés qui nous font vibrer. D'ailleurs, tu parlais de Buddy Guy tout à l'heure, qui avait été une partie des influences. Guitaristique de Jimi Hendrix, au même titre que Hubert Solmin, qu'on n'a pas cité, mais qui était le guitariste préféré de Jimi Hendrix, il l'avait dit dans une interview en 67. Buddy Guy, lui, qui vient de sortir un album qui s'appelle The Blues Don't Lie. Je ne sais pas si tu l'as, Laurent, celui-là.
Non, moi, le dernier que j'ai écouté, moi, c'était Sweet Tea, donc ça date.
Oui, ouais. Ça fait déjà un petit moment, mais là voilà, juste un petit conseil, comme ça, je me permets, tu peux l'écouter sur les réseaux. Franchement, ça, c'est un truc absolument incontournable. Enfin, en tout cas, ça fait partie des meilleurs albums de l'année 2022 au titre de Sweet Home Chicago, modestement. Mais il y a plein de gens qui ont mis ce disque sous le sapin, en tout cas, au dernier Noël.
Bah écoute, j'irai écouter parce que je suis un grand fan, surtout de la voix de Buddy Guy.
Effectivement. Jimi Hendrix, donc voilà, on va pouvoir écouter ce Voodoo Child. Et puis encore merci, puis longue vie et bonne chance pour 2023 à Red Bees and Pepper Sauce. Et puis en espérant vous voir, comme tu le souhaites, sur la scène du Hellfest un jour, peut-être en 2024.
Ben pourquoi pas.
Merci Laurent, à très bientôt.
Merci à toi.
Au revoir.
Well, I'm a voodoo child. Lord, I'm a voodoo child. Was born
swear the moon turned a fire red.
arrows are made of desire. From far away as Jupiter saw the mine. Say my arrows are made of desire. From far away as Jupiter saw the mine. Way down by the Midland Sea. I have a hummingbird and it hums so loud. You think you are losing your mind.
Drowns as we have had. Hey! Yeah, come on, man. Let's go.
Yeah, I was out of sight, man.
I'm hung up, man. I can't make it.
C'était le 20e numéro de My Rockers à propos de Jimi Hendrix, mais pas que, avec Laurent Galichon. Merci. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ça sera Queen, évoqué par l'ami Jérôme Bellec. Et en attendant, voici un dernier morceau pour cette première heure du 1179e Sweet Home Chicago. Il s'agit toujours de l'album coup de cœur du mois. Je veux parler de Keep On chez Blue Heart Records par Lil Red and the Rooster. Ça s'appelle Nobody's Fault But Mine. C'est la faute de personne, c'est juste la mienne. Nobody's Fault But Mine, extrait de Keep On par Lil Red and the Rooster. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure de Sweet Home Chicago.